Radio Cité Genève.
Émission Entre les âges.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission Entre les âges. C'est une émission sur Radio Cité qui explore les liens entre les générations créés grâce à la musique classique. Je m'appelle Laudine Dar et mon invitée d'aujourd'hui s'appelle Natacha Roquet-Alsina.
Bonjour.
Bonjour Natacha. Vous êtes concertiste, soliste, vous faites de la musique de chambre, vous êtes avant tout pianiste. Vous enseignez aussi, vous jouez dans de nombreux festivals, en trio mais aussi en solo. Vous avez une carrière vraiment assez éclectique. Quel aspect de cette carrière vous intéresse le plus, vous passionne vraiment ?
Je ne dirais pas qu'il y a un aspect qui me passionne plus que l'autre. Je pense que c'est une question d'équilibre, en fait. J'adore enseigner, j'adore jouer en musique de chambre, que ce soit avec mon trio qui est constitué, qu'avec des gens que je connais moins, avec qui je vais moins répéter. Je pense que, voilà, j'aime beaucoup travailler aussi avec des amateurs. Enfin, voilà, c'est vraiment une question d'équilibre, comme je disais. Je ne pourrais pas choisir quelque chose et je ne pourrais pas ne faire qu'une chose. Voilà.
Et comment on trouve cet équilibre ? J'imagine déjà dans l'agenda, aussi dans les...
Oui, alors c'est vrai que pour moi, ça a un peu été une évidence. Depuis toujours, j'ai dit j'aimerais enseigner et faire des concerts. Je n'ai jamais voulu faire que des concerts ou que enseigner. Ça m'a paru assez évident, peut-être parce que ça vient de mes parents, je ne sais pas. Et après, l'agenda s'adapte, je dirais, en fait... Voilà, et puis très vite, on voit si c'est un équilibre qui nous correspond, parce que parfois, on a des attentes, et puis finalement, c'est pas ce qui nous plaît. Donc là, en tout cas, l'équilibre que j'ai aujourd'hui me va très, très bien.
Est-ce que vous vous ennuieriez si vous vous conteniez à un seul aspect ?
Je sais pas si je m'ennuierais, mais par contre, je pense que je m'enfermerais dans quelque chose. Peut-être, par exemple, si je faisais que des concerts en soliste, au bout d'un moment, peut-être, je me poserais trop de questions par rapport à mon jeu, mon travail, des choses comme ça. Si je faisais qu'enseigner, ça me frustrerait de ne pas pouvoir jouer pour du public. Donc, c'est pas une question d'ennui, c'est plus une question de diversifier les énergies, je dirais.
Voilà. Natacha Roquet-Alsina, vous êtes une jeune pianiste, mais vous avez déjà une carrière très intéressante. Est-ce que vous avez des souvenirs particulièrement marquants ? Un festival, une masterclass, quelque chose qui vous a vraiment laissé un souvenir frappant ?
Alors, j'ai pas un souvenir frappant. J'en ai beaucoup, mais j'en ai pas un plus que d'autres, je dirais, en tout cas.
D'accord. Et qu'est-ce qui vous a donné l'envie de faire de la musique votre métier ?
Alors, je suis née dans une famille de musiciens puisque mes deux parents sont pianistes. Mon père est concertiste. J'ai toujours baigné dans la musique. À la maison, il y avait plusieurs pianos. Toute petite, je m'y suis mise par moi-même, en fait. Et donc, encore une fois, c'était une évidence. Je me suis jamais vraiment posé la question. Et j'allais tout le temps à des concerts, écouter que ce soit mon père ou plein d'autres concerts. Et je viens d'une famille d'artistes en général. Donc voilà, j'ai toujours baigné dans ce milieu qui m'a toujours plu. J'ai jamais été poussée. Mes parents m'ont jamais poussée, mais j'ai toujours été à l'aise. Voilà.
D'accord, c'est merveilleux. Nous allons tout de suite vous écouter dans le deuxième concerto pour piano de Rachmaninoff, le début du troisième mouvement de ce concerto.
Thank you.
Radio Cité Genève.
Nous écoutions le début du troisième mouvement du deuxième concerto pour piano de Rachmaninov, interprété par Natacha Roquet-Alsina, qui est aujourd'hui avec nous. Natacha, vous avez commencé la musique en écoutant vos parents, en allant voir des concerts, en essayant un peu de jouer du piano. Est-ce que vous, à quel moment vous avez vraiment voulu choisi de faire ça professionnellement? À quel moment il y a eu ce déclic?
Alors, je dirais que quand j'ai eu 12 ans, donc ça correspond en France à ce qu'on appelle le collège, la 6e, je suis entrée en horaire aménagé. Donc, j'avais cours à l'école que le matin. J'avais toute l'après-midi pour faire de la musique. Donc, déjà, ça mène vers la voie professionnelle. Et après, j'ai continué avec le lycée, donc jusqu'au bac, jusqu'à la maturité. Et c'est là où j'ai tenté le conservatoire supérieur de Paris. Donc, en fait, ça s'est fait naturellement, là aussi, d'aller vers la voie professionnelle.
Le CNSM, une institution très, très connue, renommée. Quelle a été votre expérience là-bas?
Une institution très connue, c'est vrai, où on rencontre énormément de gens, où il y a beaucoup de professeurs très connus, très renommés. C'est super, bien sûr, pour les contacts, que ce soit amicaux ou par rapport aux professeurs. C'est une institution qui propose beaucoup de choses aussi et qui forme vraiment à la carrière de musicien.
Est-ce qu'on a quand même le temps de faire des rencontres, d'aller boire des verres? Ou est-ce qu'une fois qu'on est au CNSM, on travaille au piano 20 heures par jour?
Après, libre à chacun de faire ce qu'il veut. Mais bien sûr, il y a une vie étudiante quand même très forte, je dirais, dans le quartier, qui s'est en plus beaucoup développée maintenant, qui a la Cité de la musique, la Philharmonie. Donc, c'est un quartier qui vit beaucoup. Donc, il y a une belle vie étudiante, je dirais.
Oui, une vie étudiante et culturelle. Quelles sont, Natacha, vos inspirations musicales? Est-ce qu'il y a des modèles que vous avez eus? J'imagine déjà vos parents, vu qu'ils étaient musiciens, mais est-ce qu'il y a vraiment des gens qui vous ont inspiré depuis que vous étiez plus jeune ou aujourd'hui encore?
Je dirais que le professeur qui m'a énormément inspiré, c'est Constantin Lifschitz, avec qui j'ai fait deux masters en fait, à la Haute École de Lucerne. Parce que, j'ai voulu partir du CNSM pour voir autre chose. Et donc, j'ai rencontré ce professeur et donc je suis partie pour lui en Suisse, en fait. Et lui, ça a été vraiment une source d'inspiration énorme. Je pense que j'ai appris avec lui à interpréter et à transmettre quelque chose. Enfin, en tout cas, ma vision de la transmission et de l'interprétation. Et ça a été une rencontre extrêmement marquante, pas toujours facile, mais très marquante, je pense, dans ma vie de musicienne.
Et comment c'était de quitter Paris pour Lucerne?
On m'a souvent posé la question. Moi, j'ai adoré. J'en avais un peu assez de Paris. C'est une ville incroyable, Paris, hein, mais qui grouille tout le temps de monde, de gens, de nervosité. Voilà. Et arriver à Lucerne, c'est une petite ville où on fait tout à pied, tout le monde se connaît. C'était incroyable. La Haute École, à l'époque, parce que maintenant ça a changé, était en haut d'une colline qui surplombait un lac. C'était des conditions de travail exceptionnelles et le niveau était beaucoup plus hétérogène. C'est une vision de la musique très différente, en fait. Et ça m'a énormément apporté, ça m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a donné un havre de paix dans ma...
Vous avez dû apprendre le suisse allemand?
Alors non, mais je parlais allemand, tous les cours sont en Hochdeutsch, en haut allemand, et je le comprends un petit peu, mais bon, vu que dans chaque ville, ça change, je dirais pas que je parle suisse allemand, non.
Les dialectes suisses, toute une histoire. Nous écoutons maintenant le début de la sonate pathétique de Beethoven que vous avez interprétée, Natacha Roquet-Alsina.
Radio Cité Genève.
Nous écoutions le début de la sonate pathétique de Beethoven, interprétée par Natacha Roquet-Alsina, qui est avec nous aujourd'hui. Natacha, vous faites partie du trio Ernest. Quelle est l'histoire de ce trio ?
Alors, en fait, j'ai rencontré Stanislas Gosset, qui est violoniste, il y a quelques années, dans une masterclass en Autriche. Voilà, rien à voir. Et donc, on a eu envie de faire de la musique ensemble. Lui, il jouait depuis longtemps avec Clément Damy, qui est le violoncelliste. Et donc, on a créé le trio. Ça fait maintenant un peu plus de deux ans, je dirais. Voilà, donc eux se connaissaient très bien et jouaient ensemble depuis longtemps. Puis moi, j'étais un peu la nouvelle.
Pourquoi le nom Ernest ?
Alors, ça vient de la pièce d'Oscar Wilde, « The Importance of Being Ernest ». Voilà. D'accord. Ou Ernest veut dire constant aussi. Voilà.
D'accord. Et vous êtes un trio constant.
Oui, on va dire ça.
À quel moment, Natacha, vous avez réalisé que donc votre envie de jouer d'abord avec Stanislas, puis avec Clément, à quel moment vous avez réalisé que ce serait vraiment l'opportunité de développer une carrière professionnelle, parce que ce trio a quand même beaucoup de... se produit professionnellement.
Alors, je dirais qu'en fait, c'était... dès le début, c'était vraiment un but quand même de faire quelque chose de... comment dire, de stable et sur le long terme, et vraiment avec de l'ambition. C'était pas juste aller, on fait un concert et ça va être super. Donc, c'était le point de départ. On avait tous, je pense, la même envie professionnelle. Et après, on s'est tout de suite très bien entendu et ça marche super bien humainement et musicalement. C'est ce qui nous permet de toujours aller plus loin et vouloir espérer aller plus loin. Voilà.
D'accord, quelles sont vos ambitions en tant que trio ?
Nos ambitions en tant que trio ?
Est-ce qu'il y a une salle particulière où vous pourriez jouer ou juste du répertoire ou...
Alors, je dirais que bien sûr, on espère enregistrer bientôt un premier CD. Voilà, ça c'est un projet à court terme. Et puis, ambition, continuer à jouer le plus possible quand la période sera meilleure et faire de belles rencontres. Et voilà, je sais qu'il y a une salle qui nous tient beaucoup à cœur, c'est le Wigmore Hall à Londres. Je crois que ce n'est pas trop le moment, là, mais Londres, mais...
Elle a une acoustique fantastique,
voilà,
je confirme.
C'est ça.
Vous avez eu beaucoup d'opportunités avec ce trio. Pour en nommer une, je pense maintenant à votre résidence, à la Reine Elisabeth, la chapelle de la Reine Elisabeth, c'est ça ?
Ouais.
Qu'est-ce que c'est, la chapelle de la Reine Elisabeth ?
Alors, la chapelle musicale Reine Elisabeth, c'est une école, en fait, qui a été créée par la Reine Elisabeth en 1939, il me semble, et qui était à la base construite pour le concours Reine-Elisabeth. Aujourd'hui, c'est une école, en fait, je dirais un peu post-grade, qu'on fait souvent après ses études, qui est en fait très renommée, très reconnue, et qui rayonne vraiment à travers l'Europe. Donc, on a des masterclass avec des grands maîtres, et puis ils proposent beaucoup de concerts. Ils ont des partenariats avec des salles à travers l'Europe. Il y a des possibilités d'enregistrer, il y a des très beaux prêts d'instruments aussi. Donc voilà, c'est vrai que c'est une très grande chance d'être ensemble en résidence là-bas.
Comment on se retrouve ensemble en résidence là-bas ? Quel est le processus ?
C'est un concours d'entrée en plusieurs tours en fait.
D'accord.
Voilà.
Et est-ce qu'ils prennent beaucoup d'ensemble ? Parce que d'habitude, quand on pense à des études supérieures, on pense à...
Oui, alors, non, c'est quand même une petite école, enfin petite dans le sens, on n'est pas énormément d'étudiants. Et en musique de chambre, l'année dernière, on a été les seuls à être pris. Je dirais qu'ils prennent un ou deux ensembles par année. Voilà, et environ... en fait, il y a violon, alto, violoncelle, chant, piano et musique de chambre.
D'accord.
Environ deux personnes par catégorie par année, je dirais.
D'accord.
Voilà.
Natacha, vous êtes donc pianiste, concertiste, soliste et vous faites aussi de la musique de chambre. En quoi la musique de chambre, ça diffère de votre de la manière dont vous allez jouer en solo ?
Je dirais tout d'abord, ce qui est très intéressant, c'est le travail à trois. C'est-à-dire que quand on travaille seul, on a notre idée. Puis on peut bien sûr prendre des inspirations, poser des questions, jouer à des professeurs. Mais finalement, on est seul face à notre interprétation. Évidemment, quand on est trois, on a trois personnalités, trois interprétations. Mais le défi, c'est vraiment d'en faire une interprétation, de faire une personne, une interprétation. Et voilà, quand je travaille régulièrement avec Clément et Stanislas, ils me proposent toujours des choses auxquelles j'aurais pas pensé, où ils vont plus loin sur certains aspects que moi. Et voilà, ça ouvre énormément les yeux, les oreilles. Et je pense que ça fait grandir. On souffre beaucoup, en fait, en faisant ça. Voilà.
Est-ce que vous avez un répertoire, un trio de prédilection ?
On nous pose souvent cette question. Alors, je dirais que non. On aime vraiment jouer de toutes les époques. Par exemple, on fait de la musique contemporaine. On a joué une création il n'y a pas longtemps. Clément, il fait beaucoup de baroque aussi, donc on est très ouvert sur les époques. Après, si on a peut-être une petite prédilection pour la musique, l'époque classique, voilà, je dirais peut-être Mozart surtout, mais bon, c'est relatif.
Pour rester dans l'époque classique, nous allons maintenant écouter le trio en mi mineur de Haydn, le troisième mouvement, interprété par le trio Ernest.
Radio Cité Genève.
Nous écoutions le troisième mouvement du trio en mi mineur de Haydn, interprété par le trio Ernest, dont nous avons la pianiste avec nous aujourd'hui, Natacha Roquet-Alsina. Natacha, durant le premier confinement, il me semble, vous avez développé avec le trio Ernest une série de concerts en streaming. Est-ce bien juste ?
Tout à fait. Donc, on a lancé une saison de concerts Ernest part en live. Donc, on s'est dit, c'est pas possible, ça dure cette pandémie, on peut pas arrêter de jouer comme ça, on voyait tous nos plans qui s'envolaient. Et on a voulu créer cette série. À la base, c'était, on voulait que ce soit local, on voulait inviter des artistes donc locaux pour. En plus, on pouvait pas trop se déplacer à ce moment-là, donc voilà, pour relancer une vie culturelle locale. On avait un très bel endroit chez des privés avec un beau piano, et donc voilà, on a lancé 6 concerts tout l'été. Et le but, c'était d'inviter quelqu'un en plus du trio. Donc, à chaque fois, il y avait une première partie trio et puis une deuxième partie avec l'invité, en gros. voilà, tout au long de l'été. Et donc, c'était en streaming. Et ce qui nous tenait à cœur aussi, c'était qu'il y avait une billetterie. Parce que à l'époque, on a voulu un peu lutter contre toute cette offre gratuite sur Internet. Alors, je ne parle pas des grandes salles ou des opéras qui mettent leur spectacle gratuit, ça c'est autre chose, mais plutôt de gens jeunes comme nous qui mettaient leurs vidéos, leurs choses, et au bout d'un moment on s'est dit mais notre métier va disparaître, c'est pas possible. Donc voilà, on a voulu redonner de l'importance à notre art, à notre métier en lançant ces concerts sur une billetterie qui était, c'était un tarif assez faible, mais c'était plus symbolique.
Et comment est-ce qu'on développe un public en ligne ? Comment est-ce que vous avez réussi à faire grandir ce public ? Est-ce que vous avez envoyé...
Très bonne question. Alors, pour être très honnête, il s'est plutôt affaibli parce que les gens, au début, c'était nouveau. Donc, ils étaient intéressés, puis ils se sont dit « Ah, super idée !» Donc, les premiers concerts, on a eu beaucoup de monde, on était très contents. Alors, évidemment, beaucoup de proches, du bouche à oreille, mais aussi... On a eu une petite interview à la radio aussi. Enfin voilà, on a réussi à amener du monde. Et en fait, au bout d'un moment, les gens disaient bah, « C'est super, mais nous, on veut des vrais concerts. » Donc, il y a eu une lassitude de notre part et de la part du public qui est, à mon avis, tout à fait compréhensible.
Malgré cette lassitude, vous avez lancé une nouvelle saison. Vous ne cessez de vous renouveler. On invite d'ailleurs tous nos auditeurs et auditrices à aller vous écouter. Où est-ce qu'on peut retrouver les informations pour rejoindre ces lives ?
Alors, sur notre site internet, donc www.ernestpianotrio.com.
D'accord.
Et donc, oui, cette nouvelle saison qui s'appelle Biclassical. Donc, c'est une saison qu'on veut lancer sur le long terme, parce que Ernest part en live, c'était vraiment juste pour l'été, voilà. Enfin, ça, on voudrait le faire chaque année. L'idée, c'est de faire 3 concerts par an. Et à la salle des abeilles, et d'inviter toujours une personnalité, un artiste à jouer avec nous. Et il se trouve que le premier concert donc, qui a eu lieu le 15 mars, on a été obligé de le faire en streaming parce qu'on ne peut toujours pas accueillir de public. Mais l'idée de cette saison, c'est pas du tout comme Ernest part en live où vraiment le cœur de l'idée c'était de faire du streaming. Là, non, on veut faire une saison de concert normale. Et on a dû faire le premier parce qu'en fait, on l'a déjà décalé, puis au bout d'un moment, on ne peut plus décaler. Donc, on l'a fait en streaming, mais ce n'est pas du tout le...
Dès que possible, vous reviendrez au concert en vrai.
Et le prochain est le 9 mai, d'ailleurs, à la salle des Abeilles, avec le oboïste Gabriel Pidou. Et on espère très fort pouvoir avoir même une jauge réduite, mais voilà, des personnes en vrai.
On espère aussi, on invite nos auditeurs à venir vous écouter, soit en streaming, si malheureusement la situation ne s'est pas améliorée, soit en vrai à la salle des Abeilles. Quel programme vous avez déjà choisi ce que vous allez jouer ?
Alors, pas complètement encore, mais le trio, on va jouer une création de Carlos Roque Alsina. On va jouer, c'est la création suisse, parce qu'on l'a déjà créée en France. On va jouer un trio de Haydn, alors pas celui qu'on a écouté, un autre. Avec Gabriel Pidou, on va jouer le Quatuor de Martinou, qui est une pièce assez méconnue. Et ils vont jouer sûrement en trio, donc violon, violoncelle, hautbois, un Beethoven, une pièce baroque, mais c'est pas très clair encore.
D'accord, voilà. Alors il faut venir pour savoir.
Ah, voilà, c'est ça.
Ça, c'est le prochain concert. Il y en a déjà un troisième annoncé.
En septembre, le 27 septembre, si je ne me trompe pas, avec Patrick Jeunet. Et là, on va jouer le trio de Chausson. Et on va jouer avec lui la suite de Korngold pour deux violons, violoncelle et piano main gauche.
D'accord, donc Clément, vous allez ligoter une main dans le dos.
Exactement.
Très bien, nous écoutons maintenant le premier mouvement du trio des esprits, interprété par le trio Ernest.
Thank you.
Radio Cité Genève.
Nous écoutions le premier mouvement du Trio des Esprits de Beethoven, interprété par le Trio Ernest. Nous sommes aujourd'hui avec Natacha Roquet-Alsina, qui est venue nous parler de sa carrière et de sa place dans ce trio. Natacha, vous avez donc mentionné le fait que vous aviez des invités qui sont joints au trio, d'abord pour la saison de Ernest part en live, maintenant pour cette prochaine saison de Bee Classical à la Salle des Abeilles. Pourquoi faire venir ces gens en fait?
Alors, on aime beaucoup le format où on fait la première partie et puis on invite quelqu'un pour la deuxième partie. Déjà, alors, on adore jouer avec des gens qu'on estime beaucoup musicalement et humainement. Ils nous apportent toujours énormément. Je pense, par exemple, on a joué avec Miguel Da Silva ou donc le 15 mars dernier avec Patrick Hutt, avec qui on travaille beaucoup à Berne aussi. Donc, ce sont nos professeurs, nos inspirations, en tout cas musicales. Et c'est toujours très, très intéressant et formateur de jouer avec ces professeurs parce qu'on comprend les choses différemment, plus concrètement. Et voilà, puis c'est aussi une relation de proximité qu'on n'a pas forcément avec un professeur et qui est très enrichissante à tout point de vue. Et aussi, ce qu'on aime beaucoup, c'est chercher du répertoire. Parce que finalement, quand on joue à quatre, le répertoire trio plus un, on pense à l'alto tout de suite. Évidemment, quatuor avec piano, il y a un énorme répertoire. Et nous, on essaye de chercher des trucs un peu plus, enfin, des morceaux un peu plus, un peu moins
qui
connus.
Qui
sortent un peu du commun. Et donc, c'est pour ça, par exemple, avec Gabriel Pidou, le hautbois, avec un deuxième violon, le Korngold, qui passe tellement joué. Et on a comme projet pour l'année prochaine d'inviter de la percussion, de faire une pièce de crum, par exemple, ou avec clarinette. On explore des répertoires aussi.
Ça vous permet de sortir un petit peu de Haydn et Mozart.
Exactement.
Votre répertoire que vous appréciez.
Exactement.
Il faut sortir de sa zone de confort, d'accord. J'imagine que ces collaborations, comme vous le mentionniez, permettent de créer des passerelles entre les générations aussi. Vous parlez de vos professeurs, vous avez aussi invité des gens plus jeunes. Je pense notamment à l'orchestre Juventuti. Qu'est-ce que ça vous apporte à vous d'avoir des plus jeunes musiciens à vos côtés?
Alors, tout à fait, avec l'orchestre Juventuti, c'était une super expérience. Donc, des plus jeunes qui sont pré-professionnels ou déjà d'ailleurs en haute école pour certains. Donc, ce sont des jeunes qui ont une super énergie, un super niveau. Et pour nous, c'est génial de... Par exemple, Clément et Stan, ils étaient premier violoncelle. Donc, ils les coachaient un petit peu quelque part. En même temps, eux, ils nous donnaient énormément d'énergie. Et voilà, il y a la transmission qui se fait. C'est, souvent, ils ont une dizaine d'années de moins que nous. Donc, c'est très agréable. On se revoit il y a 10 ans. Et puis, eux, je pense qu'ils ont... Ils ont hâte d'être dans 10 ans. Voilà, il y a une belle énergie, je trouve, qui s'échange.
Qui en ressort, d'accord. Et puis, comment se passent donc, ces collaborations en général? Vous me dites qu'elles se passent plutôt bien. Est-ce que ça arrive qu'il y ait des sortes de clashs, des fois des désaccords? Parce que j'imagine que comme vous travaillez avec votre trio, vous avez quand même un mode de fonctionnement, vous avez quand même une couleur musicale peut-être aussi. Comment ça se passe quand on ajoute un élément nouveau?
Alors déjà, je dirais qu'on est quand même trois personnalités dans le travail assez simples. Tout est relatif, mais aucun de nous trois est vraiment va partir dans des colères ou des choses comme ça. Je pense qu'on s'adapte beaucoup. Et surtout, quand on invite quelqu'un, On n'a pas envie, nous, d'imposer notre manière de voir la musique ou d'être. Justement, on invite les personnes aussi pour qu'elles, elles nous proposent quelque chose. Et donc, ça nous est arrivé de jouer avec des gens où nous, on n'aurait pas forcément fait ces choix-là musicaux, mais on trouvait ça super intéressant. Et finalement, c'est ça qui nous fait toujours grandir et réfléchir. Parce que si on se cantonne à notre vision des choses, bah, au bout d'un moment, c'est un peu pauvre aussi. Donc non, on n'a bien sûr jamais eu de clash. Après, évidemment, on invite aussi des gens qu'on choisit et on sait que ça se passera bien. Et puis, je pense que, j'espère, on a la maturité de rester calme si on n'est pas d'accord et de ne pas aller au clash, ce serait dommage.
J'imagine, quand ce n'est pas vos professeurs que vous choisissez d'inviter, comment ont lieu ces rencontres ?
Vous voulez dire comment on choisit cette personne ?
Comment vous les abordez ?
Alors, souvent, je dirais jusqu'à maintenant, un de nous trois connaissait la personne. Voilà. Soit par les études, soit par un lien familial plus ou moins éloigné. Clément qui est suisse, c'est le vrai suisse du trio, évidemment connaît plus de gens dans la région, par exemple. Gabriel Pidou, avec qui on joue en mai, il est parisien, donc je le connais du Conservatoire de Paris. Donc, pour l'instant, c'est que des gens avec qui on avait au moins un de nous trois avait un lien plus ou moins proche pour pouvoir l'aborder. On a essayé une fois d'aborder quelqu'un qu'on ne connaissait pas du tout. Voilà, ça a été un peu plus compliqué, évidemment.
J'imagine. Alors, la musique, ça fonctionne beaucoup par le bouche à oreille, voilà, n'est-ce pas, par les connaissances. C'est très intéressant, Natacha Roquet-Alsina. Merci d'être aujourd'hui avec nous. Nous allons écouter maintenant la valse brillante de Chopin, interprétée par Dinu Lipati.
Thank you.
Radio Cité Genève.
Nous écoutions la valse brillante de Chopin interprétée par Dino Lipatti, un grand pianiste qui était d'ailleurs professeur à Genève. C'est maintenant votre cas, Natacha Roquet-Alcina. Vous êtes depuis cette année professeur au Conservatoire Populaire, c'est ça ?
Tout à fait, j'ai commencé en septembre.
Et qu'est-ce que ça représente pour vous d'avoir une classe au Conservatoire ?
Alors déjà, le Conservatoire Populaire, c'est une institution exceptionnelle, je trouve. Depuis que je suis arrivée à Genève, c'était vraiment un endroit où je rêvais de travailler. Déjà, c'est un très grand conservatoire, beaucoup de professeurs, beaucoup de disciplines, théâtre, danse, et ils proposent beaucoup de cours différents. Donc, c'est vraiment, et ça rayonne dans tout le canton. Il disait que c'est, je crois, la première institution de concert. Enfin, c'est eux qui ont le plus de manifestations culturelles dans une année normale, bien sûr. Voilà, je connaissais plusieurs personnes qui travaillaient là-bas. Et donc c'est une très grande joie pour moi d'enseigner depuis septembre dans cette institution. Voilà, c'est aussi une institution qui laisse beaucoup de place aux élèves et aux professeurs, ce qui est assez rare. C'est-à-dire qu'en tant que professeur, on peut vraiment proposer des choses. On peut arriver avec un projet et ils vont toujours être ouverts et toujours tout faire pour que le projet se réalise. On a énormément de marge de manœuvre, ce qui est très rare et ce qui est vraiment... ce que je trouve génial. Voilà.
Vous en avez des projets ?
Avec ma classe, bien sûr. Là, je viens d'arriver, donc il faut un peu prendre ses marques, mais j'aimerais faire un grand projet autour des danses baroques. Voilà, et puis j'espère un jour pouvoir... j'aimerais développer la musique de chambre, qui existe déjà. Hein. Ils sont déjà très attentifs à ça, mais voilà, j'aimerais développer. Et j'aimerais aussi beaucoup peut-être inviter une compositrice, écrire une méthode avec elle. Voilà, des projets, il y en a toujours beaucoup. En tout cas, on verra ce qui se réalise, mais c'est agréable de savoir qu'on est dans une institution qui demande ça. Elle demande même que les professeurs aient des projets, donc et des propositions. C'est-à-dire, voilà, c'est très ouvert, très agréable.
Sur le thème de l'enseignement, j'ai appris que vous étiez partie en Grèce.
Tout à fait.
Lors d'un programme éducatif appelé El Sistema, j'imagine que ça fait référence au programme qui s'est développé au Venezuela.
Oui, c'est une imitation en quelque sorte.
Est-ce qu'on peut rappeler, vous voulez le faire en quelques mots, ce qu'est le Sistema au Venezuela ?
Alors, le Sistema au Venezuela, donc, c'est l'idée que tous les enfants puissent avoir accès à la musique dans les quartiers défavorisés, les pays défavorisés. Alors, je ne sais pas exactement comment ça se passe, mais je sais qu'ils forment un orchestre. Et donc, toute l'année, ils travaillent ensemble, ils ont des cours d'instruments. Et puis, à la fin, ils ont un grand concert. Et l'idée de base, c'est vraiment d'amener la musique, en fait, partout. Voilà, et ça s'est énormément développé dans plein de pays. Et d'ailleurs, El Sistema Grèce n'a, à ma connaissance, pas de rapport direct avec El Sistema vénézuélien, mais c'est comme une imitation, je dirais.
Et en quoi ça consistait exactement en Grèce ?
Alors, donc ça a été un partenariat qui a été fait avec le CA. Donc le CA, c'était les études de pédagogie au Conservatoire de Paris que j'ai terminé il y a un an. On devait faire un projet pédagogique. Et ils avaient quelques partenariats avec plusieurs pays. Et en Grèce, donc c'était avec El Sistema Grèce sur des camps de réfugiés autour d'Athènes. Et donc, c'est Anis Barna qui a lancé ça. Et ils ont des locaux, des professeurs. Et ces enfants-là ont toutes les semaines cours de musique. Donc, en fait, c'est un éveil musical plutôt. Donc, il y a de la chorale. Il y a des cours de violon et d'alto. Étonnant, mais super. Et voilà. Et en fait, c'est en train de se développer énormément. Ils sont en train de créer un orchestre. Ils sont en train de vraiment se mettre sur le modèle vénézuélien. Nous, quand on y est allé, c'était il y a 2-3 ans maintenant. C'était plus petit encore, il n'y avait pas d'orchestre, tout ça. Et ils invitent beaucoup de gens, il y a beaucoup d'invités qui viennent collaborer. Il y a énormément d'événements, ils rayonnent beaucoup dans Athènes, c'est exceptionnel ce qu'ils font. Et les enfants sont tellement heureux. Et en plus, il y en a qui ont commencé dans leur pays la musique, puis qui ont dû arrêter. Et puis qui, bien sûr, n'ont aucun moyen de continuer. Et donc, ça leur permet de garder un lien avec ce qu'ils faisaient avant, avec la musique. Puis il y en a beaucoup qui découvrent. Et c'est un moment où ils oublient un peu leur quotidien qui est terrible. Et puis, ils sont tellement heureux. Enfin, nous, ça a été une expérience très, très marquante, en tout cas. Que j'aimerais, d'ailleurs, pourquoi pas réitérer et proposer un partenariat. Voilà, c'est un projet lointain, hein, mais justement, avec une institution comme le Conservatoire Populaire, je pense que c'est des choses qui pourraient se développer, en tout cas.
Et quel a été votre rôle dans ce système ? Qu'est-ce que vous avez fait concrètement sur place ?
Alors, on était trois, donc étudiants du conservatoire. J'étais avec deux guitaristes. Et en fait, on a proposé eux, ils ont proposé des cours de guitare, moi de piano, et surtout, on leur a appris des chansons en français. On a proposé tout un spectacle, en fait. On est resté 3 semaines. Mais alors, ce qui était un peu particulier, c'est qu'il y avait déjà des cours sur place. Ils ont déjà un emploi du temps, il y a des professeurs. Donc, l'idée, c'était un peu de se mettre dans ce que faisaient les professeurs, mais en apportant autre chose. Voilà, donc c'était un peu délicat au début, parce que certains professeurs se demandaient un peu, mais pourquoi ils viennent là? Nous, on fait déjà quelque chose de super. Donc, ça a été un travail d'équipe. Et on a monté tout un concert où on a même fait des t-shirts avec des notes de musique. Ils ont eu plein de souvenirs. Nous, on a joué des petits morceaux entre professionnels. Et puis, eux, ils ont appris des chansons en français. Et on a fait beaucoup de body percussion aussi et de sound painting, donc de l'improvisation guidée. Ce qui était super parce qu'évidemment, c'est vraiment très basique ce qu'ils connaissent à l'instrument, au violon par exemple, au piano. Et ça leur a permis de participer à des improvisations qui avaient un super effet. Et ils étaient super contents. C'était vraiment un chouette spectacle.
D'accord, merci d'avoir partagé cette expérience avec nous. Nous allons maintenant écouter African Flower de Petrucciani.
Thank you.
Nous écoutions African Flower de Petrucciani, choisi par Natacha Roque Alcina, qui est notre invitée aujourd'hui. Natacha, je vais maintenant vous poser la question qui tue. Qui est le ou la chef de ce trio, Ernest?
C'est moi, évidemment.
C'est pour ça que c'est vous qui êtes venue aujourd'hui nous en
parler. C'est ça, exactement, vous avez tout compris.
Très bien, on en reste là.
On en reste là.
Merci beaucoup, Natacha, d'être venue avec nous aujourd'hui. Vous écoutiez Entre les âges, l'émission qui met en avant les échanges entre les générations à travers la musique classique, présentée par Lodindar. Merci au producteur Olivier Steinmetz. Très bonne journée à toutes et à tous et à bientôt.
Émission Entre les âges.